Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique naturaliste de la Nichoule. Une chronique qui est animée par François. Bonjour François.
Bonjour Radio Royan, Vercors.
Alors François, tu es membre de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux et de la Biodiversité, l'antenne Royan-Vercors. Et puis, comme la semaine dernière, nous accueillons Luc Garraud. Bonjour Luc.
Et bonjour.
Toi, tu es botaniste et habitant du plateau du Vercors également. Et alors pour cette nouvelle chronique, François, tu as choisi une espèce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de revoir d'ici peu, une espèce qui a disparu du coin.
Voilà, donc là, pour une fois, je vais lire un article au début de la chronique qui est paru dans La Salamandre. Donc La Salamandre est une revue de nos amis suisses. C'est une très belle revue naturaliste et là, je vous conseille de vous abonner. C'est uniquement sur abonnement, en fait. Voilà, c'est vraiment un truc très bien. Voilà. Au tournant de l'an 2000... un mot s'impose pour décrire un nouveau concept planétaire, anthropocène. Nom officiel n'est ni clairement daté de cette ère marque l'apparition de traces indélébiles laissées par l'être humain, des océans, de l'atmosphère, en passant par le sous-sol. Il faut dire que le primate à gros cerveau qui a quitté ses habits de chasseur-cueilleur depuis des lustres et est passé maître dans l'art de l'industrie, de la chimie, de l'extraction des matériaux. Aidé par ses machines à déforester, brûle, acidifie, réchauffe, bétonne, empoisonne, surpêche, fend l'atome et quitte même sa planète pour visiter l'espace. Pour la première fois dans la longue histoire de la Terre, une seule espèce cause des dégâts gigantesques sur les écosystèmes. Le fait en conscience et le documente, des milliards de textes, d'images et de vidéos témoignent en direct de ce qu'il convient d'appeler la sixième extinction de masse. Aussi ubuesque que cela puisse paraître, Homo sapiens décrit, nomme, dénombre les autres organismes qui s'adaptent tant bien que mal à son hégémonie. Certains disparaissent avant d'être connus, d'autres survivent parfois, même grâce à leurs bourreaux, d'autres prolifèrent dans son sillage. En 2024, les médias annoncent la première extinction officielle d'un oiseau au XXIe siècle, le courlis à bec grêle. Des dizaines d'exemplaires empaillés hantent les musées de France, de Suisse et d'Europe. Certains ornithologues peuvent raconter leur rencontre avec cet échassier et ceux qui ne le verront jamais. C'est le cas de Philippe Dubois qui a croisé la route du courlis à bec grêle dans le delta du Danube en 73, puis au Maroc en 75-86. Avant d'intégrer un groupe officiel international, une instance chargée d'authentifier les dernières observations mondiales de l'oiseau agonisant. À l'instar du dodo au XVIIe siècle, puis du grand pingouin en 1944, le courlis à bec grêle rejoint la liste emblématique des animaux éliminés directement ou indirectement par l'être humain. La question, quel sera le prochain ? Voilà, donc c'est une histoire complètement étonnante. Donc c'est un gros oiseau, donc il n'était pas vraiment dans le Royan parce qu'il leur faut, il vit dans des endroits très humides, dans des lagunes. Donc les courlis, ça pèse 300-400 grammes et c'est quand même un beau oiseau et avec un bec très long et très fin qui plonge dans les vasières et pour se nourrir d'insectes divers et variés. Voilà, donc on a exterminé officiellement un oiseau.
Et donc là, ce que ça nous raconte aussi, c'est qu'on a certainement détruit son habitat. Donc là, on parle de lagunes, de deltas, c'est des zones humides, effectivement, qui sont de plus en plus rares et abîmées dans l'environnement, quoi.
Voilà, c'est pas une destruction par la chasse, par le plan et tout ça.
Ouais. Hein, c'est par l'habitat.
C'est par l'habitat qui est détruit, qui est monopolisé, qui est pollué. Et petit à petit, donc là, il y a une espèce officielle qui a disparu, le courlis à bec grêle. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres espèces qu'on connaît et qu'on ne connaît pas qui disparaissent en même temps. Voilà, c'est l'effet parapluie, en fait. Donc ça, c'est la grande espèce bien connue. Mais en dessous, il y a forcément d'autres espèces qui disparaissent ou qui sont vraiment en toute petite minorité, quoi.
Et justement, Luc, donc toi, tu es botaniste. Est-ce que dans les plantes qui nous entourent, peut-être de plus ou moins loin, il y en a aussi qui disparaissent ? Est-ce que ça va aussi vite que...
Officiellement, je parle pour le territoire alpin, pour lequel j'ai travaillé pendant longtemps, pour un conservatoire botanique. Et donc, on a fait des bilans, bien sûr, sur la flore. Un bilan, c'est bien, hein, ça donne une idée de voir combien... je rappelle que, par exemple, pour la région Aura, la dernière liste rouge, qui s'appelle donc la liste rouge des espèces menacées, sur près de 4000 espèces sur la région, donc qui prend en compte, évidemment, une partie de l'Auvergne, du Massif central, et puis nos départements ici, Savoie, Isère, Drôme, enfin, moi, je ne vais pas les énumérer, la région Aura, eh bien, sur ce territoire-là, on avait noté avec les différentes connaissances qu'on avait à l'époque, et on a de plus en plus de connaissances sur la flore, bien entendu, des armées de botanistes, des armées de naturalistes, des armées de gestionnaires, et bien on s'est retrouvé avec, avec, je crois, si je me souviens bien, 25% de cette flore en danger, critique, d'extinction. Voilà. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait une espèce qui ait disparu. Alors évidemment, ça rassure tout le monde. Mais il y a des espèces où il y avait 35 localités, il n'y en a plus qu'une.
Ah ouais, donc voilà, quand même
ça,
c'est...
Oui, oui, ça, alors là, oui, oui. Et ça, c'est lié, encore une fois, ce que dit François, aux habitats, hein, la perte d'habitat. Une zone humide, ça ne se crée pas comme ça, ce n'est pas possible. Le delta du Danube, ça ne va pas se refabriquer comme ça, si on le... Voilà, par exemple. Hein, ou le delta du Rhône, ainsi de suite. Enfin, bon, il y a des milliers d'exemples. Mais la régression est liée, évidemment, à la destruction des habitats.
Ouais, c'est le facteur principal avant la destruction de ces habitats, donc c'est principalement par des activités humaines. Il y a aussi, on parle du réchauffement climatique qui vient aussi des fois perturber ces habitats-là, mais l'action humaine reste
alors,
première.
Le réchauffement climatique, on a encore peu de recul sur la disparition d'espèces. On avait parlé dernièrement, quand j'avais fait une petite chronique ici chez vous, du genêt du Dauphiné. Alors, on a vu que sur les crêtes du Royan, on a vu que certaines populations de ce petit genêt, qui est fréquent, qui est présent, bah, certains pieds séchaient. Alors, est-ce qu'ils sèchent naturellement? Est-ce qu'ils ont le droit de mourir comme ça naturellement aussi? Voilà. Mais il faut vraiment poser des jalons pour faire, pour pas dire, bah, ça y est, ça se réchauffe, puis ça disparaît. Non, il faut avoir une étude un peu scientifique, un peu sérieuse pour voir ça. Mais je vois pas pourquoi les plantes ne souffriraient pas du réchauffement climatique. Ça, certainement.
Ouais, ça souligne aussi l'importance de faire tous ces relevés, enfin ces relevés et ces bilans d'études pour aussi mettre le doigt sur des zones à préserver davantage que d'autres, des zones très sensibles.
Oui, bien sûr, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel du travail naturaliste, qu'il soit professionnel, dans le cas présent pour moi, et amateur, bien entendu. On est dans des réseaux, on échange énormément, il y a des bases de données complètes. On n'a jamais aussi bien connu notre flore et on n'a jamais aussi bien mal protégé notre flore. Je ne sais pas comment dire mieux, mais c'est ça.
Et alors François, donc là on a parlé du courlis avec grêle, donc ce grand échassier qui vit dans des zones humides qu'on n'a pas forcément dans le Royan Vercors. Mais à l'échelle de notre territoire, est-ce qu'il y a d'autres oiseaux ou mammifères ou animaux qui sont également sous la menace d'une extinction? Est-ce qu'il y a des choses très rares?
Oui, l'année dernière, il y avait une grande opération départementale pour savoir où sont les chouettes chevêches, donc on appelle les nichoules. Moi, j'ai fait une soixantaine de points d'écoute dans le Royan, hein, que dans le Royan, pas sur le Vercors. Et ben, on a zéro contact, quoi. Alors qu'il y a 40 ans, avec Popol, on leur courait après, il y en avait un peu partout. Donc, on peut dire qu'elle a disparu du Royan. Donc, elle est présente à côté. Sur Rostand et Haute, elle est présente. Mais pourquoi chez nous, elle a disparu? La chouette effraie aussi, elle a complètement disparu. J'ai aucune donnée de chouette effraie dans le Royan. Et donc, il y a des grosses opérations qui sont menées en mettant des nichoirs. Mais des nichoirs, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais oui, il y a des espèces en déclin complet, oui.
Et alors, est-ce que si on prend un autre regard et qu'on essaye de trouver un petit peu d'optimisme, est-ce qu'il y a des espèces, quand on met en place un plan de conservation, un plan de protection d'espèces, que ce soit animales ou végétales, est-ce qu'il y en a qui peuvent un peu reprendre du poil de la bête et se refaire une place?
Dans les études qu'on fait sur les oiseaux communs, par exemple, le pigeon ramier est plutôt en augmentation.
Ah oui.
Parce que c'est un opportuniste, parce que les oiseaux des forêts sont plus protégés, ils sont beaucoup en forêt, mais pas que. Voilà, parce que c'est un opportuniste. Les corvidés, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien, contrairement aux insectivores comme les hirondelles qui chutent complètement.
Oui.
Il y a plus de 50 ans, je me rappelle avec Roger Mathieu, il faisait des articles sur le chamois. Le chamois, il est resté un ou deux par-ci par là, quoi. Et une chose incroyable, depuis qu'on les tue beaucoup moins, eh ben il y en a beaucoup plus.
Étonnamment.
Voilà, non mais c'est fou, ça. Il suffit de pas les tuer pour qu'ils vivent. Et donc la population de chamois a vraiment augmenté un peu partout. Voilà.
Super. Et côté flore, donc dans le coin, dans le Royan Vercors, est-ce que par exemple, tu nous avais déjà parlé donc du genêt ou du myosotis, il y a aussi une variété de myosotis qui est assez rare dans le coin. Est-ce que ces populations, elles sont stables? Comment ça se passe?
Ah, je sais, c'est difficile de répondre à ça parce que malheureusement, on court un petit peu derrière les espèces. Alors, il y a des espèces, on les connaît à peine. On connaît à peine leur répartition. C'est peut-être ce qu'on connaît le mieux, malheureusement. Et on connaît à peine leur biologie, leur reproduction, les insectes pollinisateurs. On ne sait pas si, par exemple, pour le petit genêt, s'il fait des semis naturels. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est tout un monde, hein, une espèce, je pense que les faunistes sont beaucoup plus au courant de certaines espèces, connaître l'aigle, les vautours, ainsi de suite. Il y a beaucoup plus de monde. Les botanistes, on n'est pas beaucoup. Et une fois qu'on a nommé une plante et qu'on sait où elle pousse, on a à peine commencé la connaissance d'espèces. Hein. Quand on pense que sur le Royaume, il y a 1800 espèces, évidemment qu'on est loin du compte. Hein. Voilà.
Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir et de temps à passer à observer.
Il faut former des botanistes, il faut former des jeunes gens, des jeunes filles. Bah, à la botanique, c'est aussi intéressant que d'avoir des jumelles autour du cou pour regarder les oiseaux.
Et on peut aussi faire les deux.
On peut aussi faire les deux, bien sûr.
Et ben merci pour cette nouvelle chronique donc, sur un peu la disparition et l'extinction de certaines espèces et de la priorisation à faire, de l'importance à faire pour les préserver et les protéger. Merci à vous deux, donc merci à François et à Luc.
Merci Radio Royan, Vercors.
Merci.